Le débat éco comme tous les vendredis, vacances scolaires ou pas, Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ce matin, on parle de notre avenir énergétique, sujet au cœur de la COP26 qui s'ouvre dimanche à Glasgow et au cœur des débats en France, avec la publication en début de semaine par RTE des scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des ONG comme Negawatt ont également apporté leur contribution. Qu'est-ce que vous en retenez, Thomas ?
Alors, donc le rapport RTE, de même que le rapport Negawatt, présente un certain nombre de scénarios permettant d'arriver à zéro consommation d'hydrocarbures, zéro pétrole, zéro gaz, zéro charbon, d'ici 2050. Le rapport RTE comprend six scénarios, avec six scénarios qui vont de on se retrouve dans les six scénarios, suivant les six scénarios, en 2050, entre 0% de nucléaire, 10%, 20%, jusqu'à 50%
de nucléaire.
Et il y en a un qui va jusqu'à 50% de nucléaire. Le scénario Negawatt, lui, se concentre sur un scénario 0% de nucléaire. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est vraiment de conseiller aux auditeurs d'aller regarder ces scénarios. Parce que ce qu'on voit, c'est que la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même plusieurs possibilités pour y arriver. C'est-à-dire qu'on a une diversité de trajectoires possibles et donc il faut avoir un débat raisonnable, pas d'insultes, il faut regarder les différentes possibilités. Donc ça, c'est très précieux. Le deuxième point, et c'est une moins bonne nouvelle, c'est que aucune solution n'est simple. C'est-à-dire, moi, je veux insister sur le fait qu'il y a aucune source d'énergie qui ne pose aucun problème. C'est-à-dire, chacune pose des problèmes.
Pas de solution miracle.
Oui, c'est ça. Ceux qui disent c'est bon, on a le nucléaire, tout est réglé, ça va pas du tout. Ceux qui disent c'est bon, on a l'éolien, c'est faux. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Et je veux illustrer ça en commençant par rappeler que, y compris dans le scénario RTE, qui va à 50% de nucléaire. Il faut quand même multiplier par 4 la capacité d'éolien, multiplier par 7 la capacité d'énergie solaire. Et pourtant, dans ce scénario qui est à 50% de nucléaire, il va falloir, par ailleurs, construire 15 réacteurs EPR en plus, une vingtaine de mini-réacteurs. Alors, on dit mini-réacteurs, mais les gens, ils n'ont pas forcément envie de les avoir dans leur jardin, au coin de la rue. Et je rappelle que sur l'EPR, le premier EPR de Flamanville n'est toujours pas en fonctionnement. Il rentrera en fonctionnement en décembre 2022. Donc, à ce stade, attendons de voir qui rentre en fonctionnement avant de dire on va en construire une trentaine d'autres. Mais même, et je veux vraiment insister là-dessus, même dans cette hypothèse-là, il faudrait multiplier par 4 les surfaces pour l'éolien, multiplier par 7 les surfaces pour le solaire. Et vous savez, ça va pas être tout seul, parce que l'éolien et le solaire, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a des nuisances, il y a des matériaux qu'on utilise, qu'il faut recycler ensuite. Donc tous les coûts sont pris en compte dans ce scénario, mais c'est pas des choses faciles. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est voilà, tous les responsables politiques ou les citoyens qui disent je veux pas d'éolien, je veux pas de solaire. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard en France. C'est-à-dire, si on prend le développement de l'éolien ces 5 dernières années en France, on a pris énormément de retard. Eh ben, il va falloir assumer les choix. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent
Des renouvelables, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive. Et ceux qui n'en veulent pas, alors il va falloir qu'ils disent qu'il faut leur faut 50 centrales, 100 centrales nucléaires. Enfin oui, ça oblige alors, un peu à clarifier les positions.
C'est posé. Dominique Seux.
Alors, un point d'accord ce matin. Effectivement, je conseille aussi, comme Thomas Piketty, la lecture de ces documents qui sont à la fois très complets, très simples. On n'a pas l'impression qu'il y a des entourloupes. Hein. Il y a eu des accusations.
Il y a des annexes complexes à lire.
Voilà. Non, mais c'est vraiment passionnant. Et tous ceux qui s'intéressent à l'avenir énergétique de la France doivent regarder
Comment
ça.
Comment retenez-vous ?
Je retiens trois choses. La première, c'est que notre point de départ, c'est quand même qu'aujourd'hui, nous avons une production d'électricité décarbonée à 93%, ce qui est quasiment un record. Je ne sais pas s'il est mondial, mais enfin, en tout cas, c'est dans les très bien placés. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, 93%. Le second point, c'est, et effectivement, c'est vrai, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on va changer complètement de modèle énergétique. C'est-à-dire que, évidemment, il faut électrifier une partie de nos consommations d'énergie, mais le modèle que nous connaissons depuis maintenant 50 ans ou 60 ans, qui est le nucléaire d'abord et le reste est un complément, c'est l'inverse qui va se produire. Même s'il y a encore, et je pense que c'est souhaitable, on va en reparler, s'il y a encore du nucléaire, ce sont les renouvelables qui vont dominer dans tous les cas de figure. Parce que il est impossible de fournir suffisamment de nucléaire. Le nucléaire, ce sera peut-être un quart, autour d'un quart au maximum. Ça peut être zéro. C'est le scénario de Negawatt et de sobriété.
C'est un des scénarios.
C'est
un des
six
aussi,
scénarios.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle très importante. On change de toute façon. Les renouvelables deviennent la majorité. Donc éolien, solaire principalement et un certain nombre d'autres choses. Mais le troisième point, c'est que, et vous l'avez pas mentionné Thomas, c'est que la transition, c'est compliqué. Effectivement, mais elle peut se faire à un coût supportable. De l'ordre, alors, de 20 à 25 milliards d'euros par an.
Ça, c'est une fois pour l'investissement, hein, parce que
pour l'investissement, on peut dire c'est absolument considérable, etc. Mais enfin, par rapport
au coût total de l'électricité,
c'est faisable.
Et ça veut dire que sur le coût de l'électricité pour chacun d'entre nous, c'est une hausse de l'ordre de 15%, quelque chose comme ça. Ça veut dire, il n'y a pas non plus à se dire c'est la catastrophe impossible. Mais, on voit bien, et c'est le tout dernier point que je veux dire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de modestie sur ces affaires-là. J'ai regardé, j'ai comparé par exemple le scénario de Negawatt aujourd'hui, et ils en avaient présenté un en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, et ils considéraient à l'époque, personne ne peut leur en vouloir, parce que RTE, s'il avait fait aurait fait les mêmes erreurs, mais ils considéraient que l'immense, en 2050, l'immense majorité des voitures circulerait au gaz. Là, c'est l'électricité. Donc les choses changent incroyablement. Donc ça veut dire que quand on veut écrire aujourd'hui, le scénario de 2050, en fait, c'est quand même hyper complexe.
Si la barrière, si la difficulté n'est pas financière, parce que l'investissement n'est pas hors de portée, nous dit Dominique Seux, quelles sont les principales barrières aujourd'hui, Thomas Piketty, pour faire cette bascule?
Oui, non, la difficulté n'est pas financière. Je voudrais quand même relativiser, c'est-à-dire le coût total, investissement, fonctionnement de l'électricité, tout ça va être considérable. Dans le scénario, là, tout nucléaire, à 50% nucléaire proposé par RTE, où il y a le maximum de nucléaire dans leurs 6 scénarios, on est quand même un coût global de 60 milliards d'euros par an sur la période, c'est quand même des coûts importants. Ce qui manque, à vrai dire, ce qui manque dans le rapport RTE, comme d'ailleurs dans le rapport Negawatt, c'est que ce sont des scénarios, si vous voulez, macroéconomiques ou macroénergétiques, c'est-à-dire qu'on regarde la trajectoire d'ensemble sur l'énergie, on regarde pas du tout la répartition entre groupes sociaux, entre classes sociales, tout le monde n'est pas égal face à l'énergie. Oui, c'est ça. Comment on parle pas de taxe carbone, de est-ce qu'il va falloir des cartes carbone individuelles où les plus riches sont plus mises à contribution que
les plus
toutes ces questions de répartition de l'effort ne sont pas là. Mais attendez, il y a déjà beaucoup de choses dans ces rapports, mais il faut être aussi conscient de ce qu'il n'y a pas, qui, à mon sens, ça va quand même être ça, la question centrale, et c'est quand même là-dedans, maintenant, qu'il va falloir rentrer.
Ça peut être une question centrale, mais il y a une autre question centrale, et qui est au cœur des discussions qu'il y a eu entre les ONG pendant l'élaboration de ce travail de 2 ans de RTE, c'est, au fond, quelle est l'évolution de la consommation? Est-ce qu'on va consommer beaucoup plus d'électricité? RTE dit plus 35% d'ici 2050.
D'électricité,
parce que...
Pour compenser
la baisse des hydrocarbures, c'est-à-dire plus de voitures, plus de chauffage électrique. Mais un certain nombre d'ONG disent, non, et c'est un des scénarios de RTE, dit, non, si on fait de la sobriété, si l'essentiel ce sont des économies de la consommation d'électricité, à ce moment-là, on peut, un, se passer complètement de nucléaire, disent-ils, et deux, c'est mieux pour l'ensemble. Sauf que, il faut voir les conditions de cette sobriété. Et c'est ça, quand on rentre, on soulève le capot, on s'aperçoit que ça change beaucoup les choses. C'est-à-dire que ce soit Negawatt ou les scénarios de RTE sobriété, on baisse la température dans les logements, on augmente le nombre de personnes par logement, on baisse la vitesse de circulation.
Vous caricaturez un peu, mais...
Ah ben non, pas du tout, c'est marqué dans tous les tableaux. Je suis pour ou contre. Je dis qu'il faut avoir conscience de ce débat.
J'ajoute juste un élément. La consommation d'énergie devra baisser d'énergie. Hein. Oui. Il faudra consommer presque 2 fois moins d'énergie d'ici 2050.
Effectivement, la consommation d'électricité dans les différents scénarios augmente. C'est-à-dire, dans le scénario central que regarde RTE, on passe de 400 TWh à 630. Et ensuite, dans le scénario sobre de Negawatt, on est à 530. Donc, ça augmente quand même par rapport à aujourd'hui. Et puis, il y a des scénarios à 700 dans les scénarios de RTE. Ça a quand même des conséquences. C'est-à-dire, si vous êtes à 500 plutôt qu'à 600, ça veut dire les conséquences, c'est des dizaines de milliers d'hectares à construire des éoliennes ou à faire des panneaux solaires en plus. Donc à un moment, il va quand même falloir être précis. C'est-à-dire que, vous savez, la sobriété, c'est aussi dans un certain nombre de cas faire des choses de bon sens. Et regardez, les terrasses chauffées en hiver. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'en avait pas. Est-ce que vraiment on est obligé d'avoir ça? C'est-à-dire, on développe des choses, les voyages à l'autre bout du monde, des voyages professionnels, les voyages d'affaires, ils se sont arrêtés là depuis 2 ans. L'économie mondiale ne s'est pas non plus effondré. Les universitaires aussi avaient tendance à beaucoup trop voyager. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on a besoin.
Mais il va falloir aller bien au-delà de ça.
Écoutez, si vous savez, il faut regarder, c'est là aussi que sur la sobriété, je pense qu'il faut pas faire peur à tout le monde en disant, il va falloir vous entasser, faire des logements multigénérationnels pour tout le monde, etc. Bon,
il va falloir en faire de toute façon. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais en tout cas,
moi ce que je veux dire, c'est que si on suit le scénario central de RTE, à nouveau, il va falloir expliquer les dizaines de milliers d'hectares. Alors dans le rapport RTE, font les calculs. Ils disent, vous savez, sur les éoliennes, il faudra simplement entre 10 et 30 000 hectares par rapport aux 50 millions de hectares. La France, c'est moins de 0,1%. Oui, mais il va falloir assumer ça par rapport aux riverains. Et moi, je vois beaucoup de responsables politiques, à commencer par ceux au pouvoir actuellement, qui ont tout fait au cours de ce quinquennat pour traîner des cas de fer. C'est-à-dire que par rapport à tous les autres pays européens, parce qu'on s'imaginait que le nucléaire permettait de ne pas faire ces efforts-là, on a construit deux fois moins par an que l'Allemagne en éolien.
Le modèle énergétique que l'on bâtit d'ici 2050, est-ce qu'il est piloté par ce qu'on est capable de faire en mode de production, ou il est capable par l'envie qu'ils ont de sortir du nucléaire? Et on a dans un certain nombre de scénarios, c'est on sort du nucléaire de toute façon et après on voit comment on s'adapte et on adapte nos modes de vie.
Moi, les modes de vie, c'est pas dit ça.
C'est ce qu'on en lit effectivement dans les scénarios des uns ou des autres. Il peut avoir parfois évidemment qu'il va falloir économiser et tant mieux, et changer en partie un peu de mode de vie, mais on va pas imposer de manière dictatoriale à la population de dire maintenant vous on baisse le parc automobile de 30%.
Vous dites
si on peut adapter la production.
Vous dites tous les deux, allez voir le document, consultez, etc. Mais pourquoi ? Qui va décider au final ? C'est Emmanuel Macron, dans quelques jours, en annonçant de nouveaux EPR ?
Vous savez,
qui va prendre cette décision ?
Ça va être un débat démocratique qui ne va pas se terminer, certainement pas ce matin, ni lors de l'élection de 2022, et qui va continuer pendant des années.
Non, mais si le président de la République engage la France vers de nouveaux réacteurs...
Sur le nucléaire, soyons clairs. Moi, je veux quand même rappeler que les réacteurs de nouvelle génération, donc l'EPR, le premier à Flamanville n'est toujours pas rentré en fonction. C'est-à-dire, il rentrera en fonction en décembre 2022. Il devait rentrer en fonction en 2012. Son coût était au départ de 3-4 milliards, il est finalement de 20 milliards. Donc, décider aujourd'hui, on va en faire 15 autres, plus 20 milliards, alors qu'il n'est pas encore rentré en fonction, je pense qu'il faut, sur tout ça, il faut essayer. Ce sont des questions extrêmement graves.
En même temps,
on va quand même attendre de voir qui rentre
va
en fonction.
On ne va pas attendre 2040 non plus.
Non, mais là, décembre 2022, il n'est toujours pas en fonction. Donc, ceux qui disent aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on en fait 20 autres, alors qu'on ne sait même pas si celui-là marche, il y a un moment, et du point de vue des coûts financiers, ils ont été multipliés par 6.
Thomas, sur le nucléaire, la question c'est de savoir, est-ce que le nucléaire doit être ou pas une énergie de complément ? Et là, on parle que de complément, on ne parle plus de système majoritaire.
Essentiel.
Le sujet, c'est que, est-ce que la France est en capacité de fonctionner à 100% renouvelable ? Vous l'avez dit vous-même, il faut multiplier par des nombres assez élevés le nombre d'éoliennes, le nombre de panneaux solaires.
De toute façon, nucléaire maximum, donc après c'est une question de degré, c'est un peu plus.
La première question, c'est est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale sur les éoliennes, etc. Bon, ça, on connaît bien le sujet. Et le second sujet, c'est est-ce qu'on a besoin d'une énergie dite de base, pilotable, parce qu'on s'est aperçu ici dernière semaine, notamment en Allemagne, que l'éolien, y compris offshore, quand il n'y avait pas de vent, ça pose un problème. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une énergie de complément, c'est-à-dire un certain nombre de réacteurs à lancer assez rapidement, en tout cas, de se poser la question, d'engager les travaux, d'avoir les compétences. Il faut savoir que sur le nucléaire, si vous prenez les 10 premières puissances mondiales, il y en a que deux, en réalité, qui ont arrêté le nucléaire. C'est l'Allemagne et l'Italie. Il y en a pas tellement d'autres. La plupart des autres sont en train de remettre.
Oui, aucune n'en utilise autant.
Non, mais de toute façon, ça va baisser en France. Et ça va beaucoup baisser. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, y compris Yannick Jadot, Thomas Legrand en a parlé à plusieurs reprises, considère aujourd'hui que la sortie nucléaire, ça doit être en 20-25 ans. Mm-hmm. J'ai vu que le scénario de Négawatt, le premier, il y a 4 ans, disait on arrête en 2035. Ils disent aujourd'hui en 2045. Donc on voit bien que les esprits sont en train d'évoluer. Parce que la consommation d'électricité est en train d'évoluer.
Il nous reste 2 minutes pour évoquer un autre sujet ce matin, mais oui, vous êtes bavard et donc il nous reste 2 minutes. On va aller aux États-Unis où Joe Biden a soumis hier au Congrès son grand plan d'investissement qui finalement sera diminué de moitié, pas de taxes sur les super riches. Est-ce que c'est un échec du président américain?
Alors, le débat, vous savez, le débat américain est compliqué, le poids des lobbies est très très important, mais le débat sur l'impôt sur la fortune aux États-Unis, en fait, a été fortement relancé. On ne sait pas ce qui va arriver à la fin, mais il a été fortement relancé avant l'été. Vous savez, par cette étude de ProPublica qui avait montré les déclarations d'impôt sur le revenu des 400 principaux milliardaires américains, où on se rendait compte qu'ils payaient quasiment aucun impôt sur le revenu. C'est-à-dire, plus précisément, le revenu au sens fiscal déclaré par ces personnes était une fraction ridicule de leur fortune. Et ça a quand même beaucoup fait avancer le débat. Ça a relancé le débat, et je pense que pour la France quand même, l'enseignement, c'est que en fait on a le même problème, c'est-à-dire que ce point qui a été révélé par ProPublica, on a besoin de savoir en France, moi j'aimerais que le gouvernement nous dise comment les 500 plus grandes fortunes que suit le magazine Challenge chaque année, combien ont-elles payé d'impôts sur le revenu autour des 10 dernières années, et le débat américain,
sur ce sujet,
vous savez, n'est pas terminé.
Dominique.
Après, le poids des lobbies aux États-Unis est considérable.
Bon, on devrait moins discuter des propositions américaines quand elles arrivent sur la table que quand quand elles sont votées, parce qu'il y a un changement considérable. Le plan d'investissement de Joe Biden est divisé par deux. Il n'y a pas la hausse de l'impôt sur les sociétés dont on a tellement parlé, y compris ici, de 21 à 28%, et il n'y a pas l'ISF. Je remarque aussi qu'il n'y a pas non plus d'ISF dans le programme de la coalition allemande. Il est sorti, donc ça veut dire que manifestement,
c'est des libéraux.
Il n'y a pas un appétit, mondial pour taxer les grandes fortunes, qu'on se réjouisse ou pas. C'est un constat qu'on doit faire.
On paye pas d'impôts sur le revenu, et c'est un problème pour le reste des citoyens.
Merci,
Dominique.
Merci à tous les deux, Thomas Piketty, Dominique Seux, pour ce débat écho du vendredi. France Inter.